Place Info.
Nouvelle réunion demain à Matignon car le conflit contre les retraites est parti pour durer. Les syndicats appellent même à l'amplifier à partir de la semaine prochaine. Le gouvernement, nous dit-on, est prêt à des concessions. Oui, mais lesquelles? Que peut lâcher le Premier ministre? Comment faire preuve d'écoute sans donner le sentiment de reculer? Débat ce soir dans Les Informés avec Arnaud Benedetti. Bonsoir, spécialiste de la communication politique. Vous êtes également professeur associé à Paris-Sorbonne et auteur de Le coup de com' permanent aux éditions du Cerf. À vos côtés, Alexia Germont. Bonsoir Alexia.
Bonsoir.
Présidente fondatrice du think tank France Audacieuse et auteur de Réveillons notre Europe. Razi Hamadi, fondateur de News Tank Cities, ancien porte-parole et député PS. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Bonsoir Razi. À vos côtés, Astrid Mesbarian, notre consoeur journaliste politique de France 2. Bonsoir Astrid. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à toutes et à tous. Les informer jusqu'à 21h à la radio, à la télé, canal 27 de la TNT. Et ce sera donc toujours compliqué demain sur le rail. Un train sur 6 pour les TGV, les Ouigo et les Transiliens. Un TER sur 5, un intercité sur 10. Compliqué aussi sur les routes, dans les airs, les théâtres, les opéras, les musées. Non seulement ça risque de durer, mais Alain Krakowicz sur France Info, directeur général de SNCF Transilien, craint à partir de lundi que les esprits s'échauffent. Écoutez ce qu'il nous disait tout à l'heure.
On sait que lundi, cela risque d'être encore plus difficile car il n'y aura pas beaucoup plus de trains et potentiellement beaucoup plus de voyageurs. Notre responsabilité, c'est de ne pas mettre en danger nos clients et donc on incite vraiment à tous les voyageurs qui le peuvent. Encore une fois, je suis conscient que c'est difficile, mais à ne pas prendre les RER, ne pas prendre les Transiliens.
Arnaud Benedetti, à partir de lundi, finalement, c'est presque le plus dur qui commence.
C'est le propre de tout conflit qui dure. Tout conflit qui dure devient de plus en plus difficile à gérer, à la fois pour les entreprises qui sont touchées par le conflit, et puis bien évidemment par les pouvoirs publics. Lorsque le plus difficile, c'est lundi, non, le plus difficile, c'est mercredi. Maintenant, tout le monde est suspendu aux annonces du Premier ministre. Il y a eu un tel teasing autour de cette réforme, et finalement, des éléments de langage qui n'ont pas été, c'est le moins qu'on puisse dire, digérés par tout le monde, en tout cas par les partenaires sociaux, qu'on se retrouve dans une situation qui est extrêmement compliquée. La difficulté aujourd'hui pour le gouvernement, c'est vraisemblablement non seulement de rassurer les partenaires sociaux, mais de retourner l'opinion publique. Parce que pour le moment, en début de mouvement, on constate deux choses. D'abord que la mobilisation était à la hauteur des attentes de ce qu'attendaient les centrales syndicales. Je rappelle que quand même à peu près 1 million ou 1,2 million de personnes dans la rue, c'est au-dessus du chiffre de démarrage du mouvement de 95, puisque c'est aujourd'hui le mouvement de référence auquel on se réfère.
Alors qu'ils sont moins nombreux.
Ils sont 1 million.
Les foyers de mobilisation sont moins nombreux.
Pardon ?
Les foyers de mobilisation sont moins nombreux.
Oui, ils sont moins nombreux, mais enfin, quand même, il y a eu des mobilisations importantes dans des petites villes provinces. À Pau, c'était 10 000, à Bayonne, c'était 10 000. Donc, il y a ça. Et puis, le deuxième aspect pour le gouvernement, c'est d'essayer de retourner l'opinion publique, parce que, tout simplement, l'opinion publique, pour l'instant, soutient ce mouvement. Alors, jusqu'à quand ? C'est la question qu'il faut se poser.
Les syndicats aussi essayent de maintenir cette opinion publique. Philippe Martinez, aujourd'hui, secrétaire général de la CGT, le gouvernement fait tout pour que la mobilisation et les grèves durent. Alexia Germont, pourquoi il dit ça? Pourquoi le gouvernement ferait tout pour que la mobilisation et que les grèves durent?
C'est pour se dédouaner tout simplement de la gêne occasionnée, en relâchant finalement la faute sur le gouvernement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette mobilisation très réussie, c'était aussi une mise en confiance pour le mouvement. Ça, c'est un mot qu'on n'a pas encore prononcé et qui est importante pour...
C'est-à-dire mise en confiance?
Mise en confiance d'avoir été capable de mettre autant de monde dans la rue pour une première fois. Et c'est vrai que la semaine prochaine, on se prépare tout le monde à avoir à adapter finalement le comportement pour faire face à une grève, supporter finalement les modifications du quotidien.
Je pense qu'il n'y a rien de pire pour un gouvernement que d'être confronté à un mouvement qui n'a pas un mot d'ordre clair. On a fait des comparaisons, par exemple, avec le CPE. Le CPE, à la fois, pourquoi le gouvernement était capable d'entendre et pourquoi ça a marché et pourquoi tout le monde comprenait. Il y avait un mot d'ordre qui était simple, c'est le retrait du CPE. Là, parce qu'on ne sait pas ce qui est réellement proposé, parce qu'on ne sait pas d'ailleurs, ce qui est légitimement, en tout cas, exigé de leur point de vue par un certain nombre de syndicats. D'ailleurs, sur les plateformes et les appels à manifester, que ça soit sur le fond ou la forme, les motifs de satisfaction pour dire on ne reconduirait pas, ils ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que entre la CGT, par exemple, qui dit nous c'est retrait pur et simple, Et d'autres, CFE, CGC, qui disent, nous, il y a certaines modalités qui ne nous vont pas. Et d'autres qui considèrent que, ok pour la retraite par points, mais attention aux réformes paramétriques, c'est-à-dire augmentation soit des cotises, soit allongement de la durée, etc. On n'a pas un mot d'ordre unique. Et ça, c'est grave pour ce gouvernement, parce que quelque part, il se retrouve face à ce qu'on a pu voir avec les gilets jaunes. C'est-à-dire que quoi que tu
proposes,
quoi que l'on annonce, à un moment donné, il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas content. Donc je pense que l'urgence, c'est que le gouvernement dise, voilà en tout cas la philosophie, la structure que l'on veut porter pour réformer le régime de retraite, qui aujourd'hui, il faut le dire aussi, et c'est pour ça que les Français sont en majorité pour une réforme, à ce jour, injuste et non financée.
Astrid Mesbourian. Je pense que ce que paye aussi en ce moment le gouvernement, c'est un sentiment qui est en train de se propager d'impréparation. Finalement, moi je me souviens, lorsque je suivais Emmanuel Macron pendant la campagne, il parlait beaucoup de cette retraite à points. 2 ans et demi après...
C'est annoncé dès son programme.
Bien sûr, c'était une promesse de campagne. Et 2 ans et demi après, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a ce flottement comme ça, c'est aussi ça que paye le gouvernement. Et ça, c'est vrai que ça peut paraître assez sidérant en 2 ans et demi.
Ce qui est assez incompréhensible, c'est qu'au départ, on avait cette envie de réformation. Il parlait effectivement de transformation pendant sa campagne.
Voire de révolution.
Voire de révolution.
C'est le mot le plus usité.
Voilà, voire de révolution. Cela dit, il a attaqué quand même le mur par la face nord, si j'ose dire. Parce que au lieu d'aller déjà sur une réforme paramétrique, où quelque part les gens savent que, enfin, soit il y a plus d'emplois et on cotise plus, soit si c'est à ISO circonférence, à ce moment-là, on sait très bien qu'on va être obligé de travailler un peu plus. Et donc, on aurait pu commencer par une réforme de mise à niveau sur le coup, finalement, pour ensuite essayer de transformer. Mais là, la transformation qu'il propose, c'est même pas... Attendez, juste... Oui, oui. C'est même pas une transformation, c'est une secousse sismique. Parce que de faire l'universalité, c'est-à-dire de mettre tout le monde dans le même panier, que ça soit les régimes autonomes, c'est-à-dire les fonctionnaires, les salariés et les libéraux, ça... à ma connaissance d'ailleurs, de cette façon-là, ça n'a jamais été fait ailleurs, avec en plus la réforme avec les points. Donc, on a l'impression, et pour rebondir sur votre impréparation, que tout était tracé avec un rapport Delevoye qui était quand même, qui aurait pu servir de base, mais qui a tout de suite été contrecarré, et les 18 mois de dialogue social n'ont servi à rien.
Et la question est de savoir à quoi peuvent servir les prochaines réunions, puisque lundi, les partenaires sociaux sont encore reçus par les syndicats, et puis surtout, ce que le gouvernement peut céder. Est-ce que le gouvernement peut renoncer à des pans de sa réforme? Réponse dans quelques instants. D'abord, le rappel de l'info, 20h10, France Info, Guillaume Fariol.
La France au ralenti encore demain, 4e jour de grève contre la réforme des retraites. À la SNCF, un TGV sur 6, un TER sur 5. À Paris, seules les lignes 1 et 14 du métro fonctionneront, elles sont automatiques. Pour lundi, la RATP prévoit un trafic extrêmement perturbé avec un risque de saturation. La contestation aussi dans la rue, des manifestations de gilets jaunes et militants syndicaux à travers la France cet après-midi. Des milliers de manifestants à Marseille, Bordeaux, Paris. À Nantes, des Black Blocs sont infiltrés le cortège, 3 policiers blessés et 5 interpellations. La colère aussi des routiers, eux, protestent contre la hausse à venir de la fiscalité du gazole professionnel. Des blocages et opérations escargots aujourd'hui sur plusieurs grands axes à travers la France. Alerte orange à Mayotte, un cyclone approche de l'île française, des vagues jusqu'à 3 mètres de hauteur attendues, de fortes pluies et des orages également. Emmanuel Macron maintient son amitié pour François Bayrou et continuera à échanger avec lui. C'est ce que fait savoir l'Élysée après la mise en examen du président du Modem, poursuivi dans l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants du parti au Parlement européen. Et puis la 17e journée de Ligue 1 de football, 4 matchs en ce moment, environ 10 minutes de jeu, un partout déjà entre Toulouse et Strasbourg, pas de but pour l'instant dans les autres rencontres, Rennes-Angers, Monaco-Amiens, Nice-Metz. Et puis juste avant cela, la victoire du PSG 3-1 contre Montpellier.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Neil Alatrousse.
Quelles concessions peut faire le gouvernement face à la fronde contre la réforme des retraites? Parmi les responsables politiques dans les cortèges aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon qui défilait à Marseille, considérait que les 3 prochains jours sont cruciaux pour les opposants à cette réforme. Écoutez.
Le gouvernement est très fébrile et il a raison de l'être parce que je crois qu'il avait totalement sous-estimé la capacité de rejet et de résistance qu'il y avait dans le pays. Donc maintenant nous avons un rendez-vous. Le 11, il annonce le contenu de son projet. Il nous reste donc 3 jours pour exercer la pression maximum pour le faire renoncer à l'idée du régime de retraite par points. Alors, qui veuille discuter des retraites en général, admettons, mais le régime de retraite par points, c'est la ligne rouge du mouvement qui est en cours.
Arnaud Benedetti, un commentaire.
Si vous voulez, le problème pour ce gouvernement, c'est que s'il renonce, il est encalminé et les 2 ans et demi qui restent ne servent plus à rien. Quand même, Emmanuel Macron s'est fait élire, entre autres, sur cette idée qu'il était l'homme capable de transformer le pays, contrairement à ses prédécesseurs qui avaient cédé aux pressions de l'opinion publique régulièrement lors d'un certain nombre de projets de grandes réformes. Donc, il y a quelque chose d'absolument existentiel dans le combat que mène aujourd'hui Emmanuel Macron.
Donc, Jean-Luc Mélenchon le sait quand il dit 3 jours. Pour renoncer.
Mais Mélenchon met la pression, il est dans son rôle politique de tribun d'une partie de la gauche qui a manifesté aussi, parce que quand même sociologiquement c'est aussi quand même les gros bataillons de la fonction publique qui votent plutôt à gauche qui ont manifesté ce jeudi. Mais ça c'est absolument essentiel. Et le problème du gouvernement, c'est qu'il est en train de mener une réforme dont chacun sait qu'elle est particulièrement douloureuse, qu'elle est particulièrement problématique, mais qu'il n'est pas un émetteur aujourd'hui qui est populaire pour mener cette réforme. Quand vous avez un problème avec l'opinion publique, et Emmanuel Macron, quoi qu'on en dise, a un problème aujourd'hui avec l'opinion publique depuis la crise des Gilets jaunes, vous avez plus de difficultés à faire passer une réforme qui est, on le sait très bien, une réforme qui est, j'allais dire, structurellement compliquée.
Oui, mais justement, là où ça devient intéressant, et là où on met les mots qui décrivent la réforme, ce que ne fait pas le gouvernement. Je pense que si on avait une analyse au comptage de mots depuis 2 semaines sur le nombre de membres du gouvernement qui disent « Nous, ce que l'on veut faire, c'est la réforme du régime de retraite pour instituer un régime par points », je pense qu'on n'en trouverait pas beaucoup. Et ce qui est intéressant dans ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il dit « Voilà, nous, on est contre la retraite par points ». Alors, expliquez la retraite par points. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que tout à l'heure on disait il n'est pas assez fort pour faire une refondation du système. Mais le problème aussi du système actuel, c'est que les réformes paramétriques, on les a maintenant tous les 4 ans. C'est-à-dire que tous les 4 ans, on nous explique, on augmente la durée, et c'est pas ceux qui sont nés avant 75 qui vont payer les conséquences de ça. D'ailleurs, c'est la gauche qui l'a fait, soi-disant le parti de la jeunesse, et j'étais moi-même parlementaire à l'époque. C'est-à-dire, on a dit, on va faire une réforme, mais vous inquiétez pas, ça touchera que les jeunes. Donc attention aussi à la clause du grand-père, parce qu'on voit où ça nous a mené aujourd'hui, notamment de réfléchir comme ça depuis 30 ans, en termes de politique publique dans ce pays. Qu'ils disent, on veut un régime par points, et voilà ses avantages, voilà ses inconvénients. Et écoutons aussi, parce que vous avez aujourd'hui un spectre d'économistes qui viennent de l'ensemble du paysage des sensibilités politiques. Sterdignac, des économistes atterrés. Vous avez Pisani-Ferry, vous avez l'Institut de politique publique qui disent « Attention, ça fait 30 ans, on dit aux Français, ou vous travaillez plus, ou vous cotisez plus, ou vous partez à la retraite. » Il y a peut-être autre chose qu'on pourrait tester si on fait la retraite par points. C'est la question du taux de remplacement. À partir de combien vous avez 75% de votre salaire, à partir de combien travailler, vous partez dans ces conditions-là. Il y a des sujets comme ça, il y a du grain à moudre, mais il faut que le gouvernement fasse en sorte, en tout cas ceux qui sont pour la retraite, pas pour moi, personnellement, je suis plutôt pour. Voilà, au regard de l'iniquité du système actuel. Mais on ne peut pas le faire tel qu'il est proposé non plus, parce qu'une chose quand même, c'est que le rapport Delevoye, il a été présenté à la mi-juillet. Et dedans, il n'y a pas que la retraite par points. Il y a la pension de réversion pour les femmes qui ne la touchent plus à 55 ans, plus à 55 ans, mais quand elles arrivent à l'âge de la retraite. Vous avez un certain nombre de bonus qui existaient avant, qui n'existent plus. Donc, on ne peut pas avoir le fromage et le dessert, quoi. C'est-à-dire, et la retraite par points, et en même temps, des mesures d'économie.
Si je comprends bien ce que vous dites, Razia Madi, c'est-à-dire qu'il fallait communiquer là-dessus et pas parler des régimes universels, des régimes spéciaux, aller sur les inégalités.
Ah non, mais les régimes spéciaux, les régimes spéciaux, c'était une stratégie de communication qui est très claire. Les régimes spéciaux, c'est pointer du doigt ce qui apparaît inégalitaire à une partie de l'opinion publique pour rendre acceptable cette réforme. La stratégie de communication du gouvernement, elle est celle-ci depuis le début. Sauf que les Français sont quand même pas idiots et l'opinion publique n'est pas idiote. Elle sait très bien que la réforme qui est engagée est une réforme qui va largement au-delà des régimes spéciaux.
Alexia Germont.
Au lieu de rentrer dans le détail très technique, moi j'aimerais reprendre un peu de hauteur surtout sur ce qui peut nous inquiéter pour la semaine prochaine. C'est qu'en fait, dans la tactique qui a été choisie par le gouvernement. Je trouve ça un très mauvais signal, parce que ça fait la suite finalement de ce qu'on a connu avec les Gilets jaunes, d'attendre de voir combien vous avez de personnes dans la rue pour ensuite mettre sur la table et quelque part calibrer ce que vous allez donner. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça veut dire qu'une fois que mercredi après-midi, Édouard Philippe aura donné le cadre du projet, qu'est-ce qu'il aura à lâcher ? Après, donc le fait de la question d'avoir en fait la durée du conflit et puis les concessions possibles sont deux choses qui n'ont pas de rapport entre elles, parce que vous pouvez très bien avoir un projet mercredi qui sera dévoilé, qui fera un certain nombre de concessions, et derrière avoir toujours dans la rue des personnes qui vont vouloir être toujours là pour rappeler que finalement le dialogue social n'aura pas réussi à être là. Et je finis juste sur un point, c'est que ce qui est vraiment dommageable, c'est que le dialogue social en France est conçu comme un bras de fer, alors qu'il devrait être conçu comme une poignée de main.
Oui, mais,
et oui,
mais je suis d'accord.
Mais chez
oui,
les Suédois,
mais
c'est comme
d'accord.
Ça.
Oui, mais je suis d'accord avec culture. Ça.
Dans le meilleur
temps,
des mondes.
En même temps, pour avoir discuté avec des syndicalistes toute cette semaine, dans le cadre de mes activités, lorsqu'on discute dans d'autres pays, il y a tout sur la table. Et à la limite, je veux bien qu'on caricature tel ou tel syndicat, et même moi, des fois, je trouve qu'il y a des positions jusqu'au bouchistes. Mais à un moment donné, quand les gars, les filles qui négocient, les femmes qui sont là, qui représentent leur syndicat, en face d'eux, ils ont rien de concret.
Mais je vous ai pas dit le contraire. Je vous ai pas dit le contraire. Ce que je dis simplement, c'est que dans la démarche à partir de mercredi, il faut que ça soit une démarche inédite en France, puisqu'on veut tout transformer.
Eh ben, Astrid Mesmarion va peut-être pouvoir nous répondre. Mercredi, est-ce que Matignon veut circonscrire le feu, ou est-ce que l'objectif c'est de l'éteindre d'un coup avec des annonces ? L'objectif c'est vraiment de aller fracturer le mouvement, ou c'est d'obtenir un accord en bonne et due forme et de faire en sorte qu'il y ait le maximum de contents ?
À mon sens, d'obtenir un accord en bonne et due forme, je pense qu'ils savent parfaitement là où ils ont péché, à savoir qu'ils ont déminé très tard. Ils ont laissé un tel espace aux fantasmes, aux crispations et à la peur qu'une dynamique énorme s'est mise en place. Donc
aucune
ça, il faut le
tirer des gilets jaunes.
Surtout la priorité, de façon précise, c'est que la CFE-CGC, même si c'est
le syndicat des cadres,
ne se retrouve pas appelé encore à nouveau, et que la CFDT ne rejoignent pas le
gouvernement. Je pense qu'ils ont,
la priorité.
Non, mais surtout, je pense qu'ils ont sous-estimé le poids des syndicats. C'est-à-dire, comme ils ont remporté un certain nombre de victoires face aux syndicats sur la réforme du Code du travail, sur le changement de régime de la SNCF, ils n'ont pas mesuré l'ampleur de la mobilisation à venir. Et là, ils se retrouvent avec des syndicats qui sont plus forts qu'ils ne l'imaginaient.
Donc,
ils sont dans une situation qui est quand même une situation assez cornérisée.
Et des syndicats que nous
eux-mêmes dépassés par leur base.
Dans quelques instants, puisque la stratégie des syndicats, effectivement, Alexia Germont et Astrid Mesmarion le soulignent, leur stratégie est importante à décrypter et à comprendre. 20h20 sur France Info, c'est l'heure d'abord du rappel de l'info, Guillaume Fariol.
Plusieurs milliers de manifestants à Marseille, Nantes, Paris cet après-midi. Des gilets jaunes, militants syndicaux et politiques. Ils réclament plus de justice sociale et protestent contre la politique du gouvernement. Dans le cortège de la capitale, Philippe Martinez, patron de la CGT, il dénonce la cacophonie de l'exécutif sur la réforme des retraites. Justement, la grève contre ce texte se poursuit. Quatrième jour demain, toujours de grosses perturbations à la SNCF, la CGT Cheminots, Sudrail et l'UNSA Ferroviaire. Les trois premiers syndicats de la compagnie appellent à amplifier le mouvement dès lundi. Willy Bardon, toujours dans un état critique, mais en phase de sortie progressive du coma. C'est ce qu'annonce le procureur d'Amiens. Willy Bardon a tenté de se suicider hier après sa condamnation à 30 ans de réclusion criminelle dans l'affaire Kulik. Il a avalé un pesticide à l'énoncé du verdict. Un militaire français grièvement blessé au Mali dans l'explosion d'une mine artisanale. Il doit être évacué vers la France dans les prochaines heures. L'est de l'Australie ravagé par une centaine d'incendies de forêt. Le plus gros d'entre eux au nord de Sydney. 250 000 hectares partis en fumée, c'est l'équivalent de la surface du Luxembourg. Et puis plus de 41 millions d'euros de promesses de dons, la 33e édition du Téléthon ce week-end. Elle se termine demain soir. Un numéro à retenir pour donner le 36-37.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Neil Alatrousse.
Nous évoquions il y a quelques instants les syndicats. Ils sont reçus lundi par le gouvernement. Dans quel état d'esprit aborde-t-il cette réunion? En étant ouvert au dialogue, dit le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez.
Cette fois-ci, il y a des acteurs syndicaux qui sont revenus au premier plan, qui sont à la manœuvre. Le front syndical n'est pas complètement uni, ça n'a échappé à personne. La CFDT est favorable à rentrer dans un processus qui serait un processus de compromis. Donc il y a peut-être encore une marge de manœuvre, même si cette marge de manœuvre est ténue.
Vous venez d'entendre Pascal Perrineau, hein, qui n'est peut-être pas et sans doute pas CGT, et qui n'est certainement pas Philippe Martinez, qui évoquait la division syndicale, et on va y revenir. Mais Philippe Martinez, tout de même sur la CGT et l'ouverture au dialogue, on va l'entendre, il était aujourd'hui dans les cortèges à Paris, manifestation des chômeurs. Philippe Martinez qui évoquait ce rendez-vous de lundi avec le gouvernement.
Soit ils continuent à provoquer, soit ils disent « oui, vraiment, il y a une colère dans ce pays et on fait ce que vous proposez, ce que nous proposons, c'est-à-dire on arrête tout et on repart à zéro ».
Du coup, entre Pascal Perrineau qui dit « les syndicats ne sont pas tous contents », la CGT qui veut que le gouvernement renonce, Astrid Mesmorian, ce que vous disiez, c'est en fait tous les syndicats ne sont pas forcément sur la même ligne quant à la stratégie à aborder sur les semaines à venir.
Bien sûr, évidemment, et ça va être aussi... Une grosse difficulté à gérer, et puis d'autant plus que, encore une fois, derrière ces retraites dont on parle, dont on ne connaît pas le texte, on l'a assez dit, il y a quand même un emballement hallucinant sans qu'on connaisse clairement le texte, il y a aussi une sorte de fureur sociale derrière tout ça, qui a un mécontentement global, une haine aussi vis-à-vis d'Emmanuel Macron, je crois que le mot n'est pas trop faible, et tout ça aussi est à prendre en compte et crée beaucoup de morcellement.
Pour l'instant, les syndicats, ils ont remporté la première bataille. Ça, première manche, en tout cas.
Oui, parce qu'ils ont remporté la bataille de la mobilisation. Mais enfin, la bataille de la mobilisation n'est pas suffisante. On voit bien que le gouvernement va essayer quand même de jouer sur les divisions syndicales à un moment donné pour essayer de détacher une partie du mouvement syndical de la mobilisation sociale, notamment avec la CFDT. Quoique, quand même, la CFDT cheminot s'est ralliée pour l'instant au mouvement, ce qui n'est pas négligeable, et que beaucoup de militants de la CFDT ont défilé ce jeudi. Non, mais le problème aujourd'hui pour le gouvernement, c'est que, en effet, il a vraisemblablement insuffisamment déminé, mais ça fait quand même 18 mois qu'on est sur, plus de 24 mois qu'on est sur ce dossier. Oui. Donc, oui. Je veux bien qu'on n'ait pas déminé, mais ça fait que 24 mois qu'il y a un haut commissaire aux retraites.
Et il y a aussi le jeu des syndicats qui ont choisi cette date symbolique quand même pas pour rien, alors qu'ils ne peuvent pas dire non plus qu'ils ne sont pas informés totalement, les syndicats, parce que, comme le dit monsieur, ça fait 18 mois qu'ils sont dans le secret des dieux, tout de même. Donc, en fait, ils savent quand même un peu de quoi il s'agit.
Et puis aujourd'hui, il y a quand même l'opinion publique qui risque à tout moment de basculer, éreintée par une grève qui pourrait durer un peu trop longtemps. Ce qui va se jouer là pour le gouvernement, c'est vraiment sortir par le haut avec un but qui serait de ne pas se prendre la double peine. La double peine, qu'est-ce que ce serait ? Ce serait de devoir laisser tomber sa réforme ou en tout cas la vider de sa substance suffisamment pour que tout le monde le comprenne. Et puis que derrière, il y ait... Voilà, ça continue. Sur un foyer qui s'agrège pour rebondir sur ce que vous disiez, et ça c'est tout à fait possible. Donc dans les pistes, il y aura trois points, hein. Principalement, soit on renonce aux mesures d'économie, ça c'est le premier point, soit on repousse l'entrée en application.
Et les classes d'âge,
et puis trois, c'est on vise spécifiquement des catégories de population, c'est ce qu'on a commencé à faire, c'est-à-dire les enseignants, les policiers,
les mesures ciblées.
Alors sur les policiers, évidemment, déjà dans la réforme actuelle, je crois que pour gendarmes, policiers, etc., il y a la prise
ils
en compte.
Ils ont rassuré tout le monde, Christophe Castaner leur a écrit.
Mais dès le rapport de Delevoye, c'était présent, c'est-à-dire que eux, ils pouvaient partir avant. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'on dit la bataille de l'opinion publique. L'opinion publique aujourd'hui, majoritairement, elle considère que le système n'est pas viable et qu'en effet, il faut des réformes, ils ne savent pas quelles réformes. Globalement, et le gouvernement n'a pas dit quelles réformes il voulait. Là où il y a eu une accélération, c'est quand le gouvernement a donné le sentiment de faire les arbitrages. Lorsqu'il y a eu le sujet de l'âge pivot, 64 ans, avec
la sortie,
on garde les 62 ans, mais franchement, il fallait quand même se renseigner pour comprendre quelque chose.
Ça n'existera plus, a priori, mercredi,
a priori, ça a été entamé,
Oui, mais c'est le président de la République qui dit, ça, je suis
je
pas pour.
Je n'en veux pas.
Alors il dit, mais attends, si les décisions vont se prendre comme ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur le reste, ça va être décidé de la même façon ? De la même façon, il y avait le sujet de la clause grand-père, où tout de suite... Alors, proposition d'Alain Minc, semble-t-il, qui fait son chemin en 48 heures, qui traverse le faubourg Saint-Honoré, qui parvient à l'oreille des syndicats et qui s'impose comme ça dans le paysage public. Alors, moi, je suis pour la retraite par points, je suis pour qu'on réforme, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui n'était pas dans le rapport et qui nous dit que la réforme, elle va intervenir qu'à partir du moment où, justement, les jeunes générations... Oui. Parce que là, il y a une contradiction. Oui. On fait la réforme du régime parce qu'on dit on va pas léguer des déficits à nos enfants. C'est pour ça qu'on l'a fait, la main sur le cœur. Et d'ailleurs, on y croit tellement que l'ensemble des réformes nécessaires pour qu'ils soient à l'équilibre, c'est eux qui vont les payer. Donc, à un moment donné, je pense qu'on peut prendre la balle au bon. Ça serait la réussite de ce gouvernement, je crois. De dire, OK, on repose le ballon au sol et on a une négociation où on prend à témoin les Français, où on réexplique les choses, que ça soit avant les municipales ou après les municipales, au regard des conséquences politique et économique et autres, je pense qu'on n'est pas à 6 mois près.
Et Arnaud Benedetti va vous répondre
dans... La vérité, c'est qu'ils sont...
Très brièvement,
c'est que la vérité, c'est qu'ils sont tétanisés depuis la crise des Gilets jaunes. Et donc, ils ont un rapport aujourd'hui à l'opinion publique et un rapport au social qui, quelque part, les immobilise et explique aussi les erreurs de communication, ou en tout cas les hésitations de communication qui sont les leurs.
Macron...
Bon, c'est le fond du problème.
Et je rebondis sur vos propos. Macron est-il toujours le maître des horloges? Débat dans quelques instants. D'abord la météo.
Implantée en Amérique latine, notre entreprise valorise les déchets en énergie. Luna, notre ingénieur environnement en VIE, peut vous en parler.
Si, aquí utilizamos tecnologías innovantes. Ah pardon. Et ici, nous utilisons des technologies innovantes et dans un contexte multiculturel en plus.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle? Business France peut vous aider à sourcer de jeunes talents motivés à l'international.
VIE, l'ambition d'aller plus loin.
Renseignez-vous au 0810 659 659.
Coût de l'appel, 5 centimes d'euros, puis prix d'un appel local.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France. À retrouver sur malongo.com.
France Info, les prévisions météo, Jean-Michel Golinski.
Un temps perturbé demain avec de la pluie, du vent fort, surtout à proximité de la Manche, avec des pointes à 100 km à l'heure possible, le tout dans une relative douceur pour l'époque de l'année, avec des températures matinales de 1 à 3 degrés de Lyon à Grenoble, mais déjà de 5 à 10 ailleurs. En journée, les maximales vont afficher 10 à 13 degrés en Rhône-Alpes et dans la moitié nord, 14 dans le sud-ouest, jusqu'à 16 à Montpellier, 17 à Perpignan, ainsi qu'à Ajaccio. Une zone de pluie va traverser le pays du nord vers le sud. À la mi-journée, il va commencer à pleuvoir du sud-ouest au quart nord-est en passant par le massif central. Naturellement, avant la pluie, le ciel va se charger, chassant les éclaircies. Et puis à l'arrière, dans la moitié nord, c'est un régime d'averses et d'orages qui va s'installer d'abord sur les côtes à la mi-journée, puis progressivement du nord de la Loire à la Belgique.
h 30, France Info, l'information, Julie Smul. Bonsoir Julie.
Bonsoir Neila, bonsoir à tous. Un soldat français de l'opération Barkhane blessé en opération aujourd'hui au Mali. Il est dans un état grave ce soir. Marc Bertrand, bonsoir. Son véhicule blindé a sauté sur une mine artisanale.
Oui, l'explosion a eu lieu en fin de matinée sur une piste qui relie la capitale du Niger, Niamey, à Gao, au Mali. Elle est surnommée la route de la mort à cause de très nombreuses attaques perpétrées notamment par un groupe appelé l'État islamique au Grand Sahara. L'armée française y avait chassé les djihadistes il y a 2 ans en mettant beaucoup de moyens dans la zone, mais ils sont de retour depuis quelques mois. Le soldat français est soigné en ce moment même au Mali. Il devrait être évacué vers un hôpital militaire de région parisienne dans les heures qui viennent. Et ce n'est pas la première fois qu'un militaire de l'opération Barkhane est victime d'une mine artisanale. Si l'on met de côté les 13 militaires qui sont morts la semaine dernière dans un accident d'hélicoptère, 40% des 28 militaires français tués depuis 6 ans l'ont été par une mine artisanale.
Merci Marc Bertrand pour ces précisions. Le mouvement de grève contre la réforme des retraites ne faiblit pas. Les transports sont perturbés ce week-end partout en France. C'est déjà compliqué aujourd'hui et ce sera pire demain avec un TGV et un Transilien sur 6 en circulation, 2 TER sur 10. Côté RATP, journée compliquée également demain avec à Paris 14 lignes de métro fermées sur 16. Des rassemblements ont eu lieu contre cette réforme des retraites aujourd'hui un peu partout en France. Gilets jaunes et syndicats en tête des cortèges. Des tensions à signaler à Nantes avec 500 casseurs infiltrés parmi les 2800 manifestants. 3 policiers ont été blessés, 5 personnes ont été interpellées. Willy Bardon est en train de sortir ce soir du coma coma, mais il est toujours dans un état critique, d'après le procureur d'Amiens. Il a avalé une dose de pesticides hier, au moment où la cour d'assises de la Somme le condamnait pour l'enlèvement, le viol et la séquestration d'Élodie Kulik en 2002 à 30 ans de prison. Des milliers d'Irakiens dans la rue aujourd'hui contre le pouvoir en place et malgré la mort d'une vingtaine de manifestants hier à Bagdad, des manifestants tués par des hommes armés non identifiés. Juste après cette tuerie, hier, un drone a tiré un obus sur la maison d'un leader chiite, l'un des premiers à avoir réclamé le départ du gouvernement. Le foot avec la victoire du PSG cet après-midi, 3-1 face à Montpellier. Les trois buts parisiens marqués en seulement 7 minutes. 4 matchs sont en cours depuis une demi-heure maintenant. 0-0 entre Monaco et Amiens. Nice met 1-0 face à Metz. 1-0 également pour Rennes face à Angers. Et puis Strasbourg mène face à Toulouse. 2-1. En rugby, troisième journée de la Coupe d'Europe avec en ce moment le Racing 92 qui mène face aux Gallois d'Osprey 33-14. Lyon a remporté cet après-midi la première victoire de son histoire dans cette compétition. Victoire 28-0 contre les Italiens de Trévise. 20h33 sur France Info, la suite des informés avec Neila Latrousse et ses invités.
20h-21h, les informés. Neila Latrousse.
Avec toujours Arnaud Benedetti, spécialiste de la communication politique, professeur associé à Paris-Sorbonne et auteur du coup de com' permanent aux éditions du Cerf, Alexia Germont, présidente fondatrice du think tank France Audacieuse, auteur également Réveillons notre Europe, votre livre, Razia Hamadi, fondateur de News Tank Cities. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est News Tank Cities?
C'est une agence d'information dédiée aux décideurs, spécialisée sur la ville, l'aménagement, l'urbanisme, logement, l'habitat, l'immobilier, mobilité, logistique, énergie, transition urbaine. Voilà,
les sujets sont vastes.
Une application dédiée, et des experts.
Non, je t'ai dit.
Voilà. Un contenu de haut niveau.
Votre voisine Astrid Mesmorian, journaliste politique à France 2, arrêtez-le. Je vais m'improviser.
Où elle s'en occupe.
Je vais m'improviser, mettre des horloges de ce plateau parce que
transition parfaite.
Nous allons jouer notre propre calendrier. Ce n'est pas de moi, c'est de Matignon. Phrase d'un conseiller du Premier ministre à lire dans le Figaro du jour et calendrier détaillé par Édouard Philippe lui-même hier dans la cour de Matignon. Écoutez.
Je présenterai ensuite, mercredi prochain, à 12h, au Conseil économique, social et environnemental, qui est la chambre du dialogue social et des corps intermédiaires, l'intégralité du projet du gouvernement. Le débat pourra ainsi s'organiser autour de propositions claires, qui prendra en compte bien des propositions formulées par les organisations syndicales et qui garantiront aux Français la justice, la solidité, la solidarité de leur système de retraite.
Astrid Mesmorian, le nouveau maître des horloges, c'est Édouard Philippe ?
En fait, et que depuis le coup de pression des gilets jaunes et ce que ça avait engendré en termes de mesures, ça, je pense que vraiment, c'est terminé. D'ailleurs, plus personne n'utilise cette expression, vous l'aurez remarqué. Donc, il y a eu une période où tout le monde marchait sur l'eau pendant un an et demi. C'est vrai qu'il y a eu la réforme de la SNCF, l'assouplissement du droit du travail, l'assurance chômage. Et là, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'entrave à cette liberté-là. Aujourd'hui, ça s'est vraiment révolu. Plus personne n'en parle.
Il y avait aussi l'international qui fonctionnait très bien et où on retrouvait la fierté d'avoir un président qui représentait très bien la France à l'étranger avec un parcours au début qui en a étonné plus d'un. Pour la notion de maître des horloges, à partir du moment où vous jouez en défensive, c'est clair que ça n'est plus d'actualité. Et bien sûr, il y a eu les gilets jaunes, mais moi je rebondirais un peu plus en arrière encore avec l'affaire Benalla où en juillet, il y a quand même un changement extrêmement fort dans le quinquennat.
Arnaud Benedetti, Emmanuel Macron regarde tout ça de loin. Pas vraiment.
Non, là il joue la carte institutionnelle qui, lors d'un conflit social dur, fait monter en première ligne le Premier ministre. Le Premier ministre est là aussi pour ça, pour déminer. C'était le cas de Georges Pompidou en 68 lorsqu'il discutait avec les syndicats.
Alors mais ça marche.
Ça marche institutionnellement, c'est fait pour marcher. Le problème, c'est que ça marche pas tout le temps.
C'est ça.
On l'a vu. Donc, souvenez-vous, Alain Juppé, ça n'a pas trop bien marché en 95. Mais cette histoire du maître des horloges, d'abord, c'est un slogan publicitaire qui a été abondamment utilisé par Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron partait d'un constat qui était assez juste. Il considérait que ses prédécesseurs avaient finalement échoué parce qu'ils n'avaient pas maîtrisé leur communication, entre autres, pas seulement. Donc, il a voulu resserrer sa communication en montrant qu'il était maître de l'agenda médiatique. Sauf que il n'est pas plus maître que tous ses prédécesseurs de l'agenda médiatique, que l'agenda médiatique s'impose à lui, et que je dirais même plus que l'agenda médiatique, c'est l'agenda de la société qui s'impose à lui. Il ne peut rien y faire. Et il y a un autre, et je rejoins ce que vous dites, c'est que je pense qu'en effet, la véritable perte de maîtrise du temps, elle date bien plus avant que les Gilets jaunes, de l'affaire Benalla, qui a été une véritable rupture dans le mandat et dans la perception qu'on a pu avoir d'Emmanuel Macron et de sa majorité.
Est-ce qu'on peut dire aussi que cette expression qui est née à une période où le schéma institutionnel était celui du septennat. Oui. Donc vous étiez moins maître de l'horloge que de la durée. Oui.
Vous voulez dire que c'était pas très nouveau monde comme expression?
Non, oui, c'est pas très nouveau monde, parce que d'ailleurs, d'un système politique qui avait une partie de sa légitimité qui était fondée sur la durée. Oui. Du fait du septennat, du fait de la synchronie qui existait, y compris entre le Parlement et l'exécutif. Et la situation actuelle où, eh bien, conteste à la durée la vitesse, l'instantanéité, la capacité à la réactivité, très vite, lorsque vous êtes en contradiction au sein de votre propre camp, lorsque vous donnez le sentiment de tâtonner, en fait, vous devenez le maître des horloges que lorsque cela est à votre détriment. Je m'explique. C'est-à-dire, il peut être maître des horloges s'il dit « je décide quand est-ce qu'on retire cette mesure ». Mais s'il décide d'aller au bout, et je pense que c'est ce qu'il faut faire, nonobstant un certain nombre de réformes et de négociations qui seront validées par l'obtention d'un consensus, pas qu'avec les syndicats, avec le peuple français qui, au final, rappelons-le, reste le seul maître des horloges.
Parce que cette réforme, donc présentée mercredi par le Premier ministre, elle doit passer derrière le cap du Parlement. Si elle passe le cap du Parlement, Astrid, ça devrait être la dernière grande réforme du quinquennat. Il y en avait plein sur le bureau
Il y aura
début de mandat.
Encore le Grand Paris.
La réforme constitutionnelle,
La réforme constitutionnelle, elle est actuellement enterrée, plutôt.
Expression, juste un petit mot sur l'expression maître des horloges, elle était quand même à l'endroit des journalistes, cette expression. C'était un petit tacle à notre endroit par rapport à notre illusion de toute puissance et tout ça. C'était surtout plutôt ça que ça voulait dire à l'époque. Il n'avait jamais nié l'urgence sociale et l'impératif d'aller vite.
Bonne précision d'Astrid Mesmormian, à l'époque, maître des horloges, c'était pour les journalistes que nous sommes notamment. Astrid et moi, dites-moi Alexia Germont, est-ce que cette réforme des retraites peut aujourd'hui aller à son terme sans fracturer les Français ?
Alors ça, c'est une vraie difficile question, parce que je crois que, quels que soient les sujets, en fait, on voit que ce n'est plus ce qui nous rassemble, c'est toujours ce qui nous divise, qui est mis en avant. Et c'est vraiment la quadrature du cercle. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du dialogue social. Alors ça vous a fait réagir en regrettant beaucoup que ça ne soit pas vu comme on le fait plus dans d'autres pays, c'est-à-dire sur la base de propositions. On s'asseye en fait autour de la table, non pas dans le but de compter les points, mais dans le but de trouver ce qui nous rassemble le plus. Et ça me paraîtrait être la vraie modification, la vraie transformation qu'il faudrait arriver à faire dans l'approche, pas que pour la réforme des retraites, là je parle plus généralement, parce qu'autrement notre pays va être durablement fracturé. Et il n'y a pas que la fracture en fait entre la ville et les territoires. Il y a le mode de vie, il y a les revenus, il y a donc on sent bien que la c'est une
pente. Le pacte social est
brisé. Oui. Il y a le contrat social qui est aujourd'hui à reformuler.
Et qui pose,
oui, mais encore plus.
Oui.
Et de
ça
façon
vient mettre en lumière, ouais. Ça vient le mettre en relief,
mais
la réforme
renvoie,
des retraites. Mais c'est préexistant.
Chaque sensibilité politique, et y compris les corps intermédiaires, a des contradictions profondes. C'est-à-dire que vous avez des gens de gauche, au moment du mouvement des Gilets jaunes, qui se disent, nous aussi, on va aller dans la rue, on est solidaires, etc. Et ils avaient en face d'eux des gens qui disaient, on paye trop d'impôts. Ils avaient jamais entendu ça, eux, dans leur réunion de section.
Oui.
Donc, ils disaient, mais ils disaient, je suis pas contre le fait de payer trop d'impôts, mais par rapport à ce que je paye en impôts, je trouve que le service rendu, la retraite, c'est pareil. Et les gens sont prêts à cotiser, ils sont prêts à être solidaires, mais il faut que ça soit stable, fixe, qu'il y ait de la confiance et un taux de remplacement à la hauteur.
C'est précisément le débat à venir. Hein. Quel dialogue social demain, réponse en partie par Razia Hamadi et nos autres informés apporteront la leur dans quelques instants car il est 20h40. France Info, c'est le rappel de l'information avec Guillaume Farioli.
Ce sera très difficile de nouveau d'aller travailler lundi en région parisienne, toujours en raison de la grève contre la réforme des retraites. La RATP annonce un trafic extrêmement perturbé, un risque de saturation. 10 lignes de métro resteront fermées. La SNCF, elle, demande de ne pas se rendre en gare et craint une affluence très dangereuse. Demain dimanche, également de grosses perturbations sur les rails. La contestation sociale également dans la rue. Des milliers de manifestants cet après-midi à Marseille, Paris ou encore Nantes. Nantes où des Black Blocs sont infiltrés le cortège. 3 policiers blessés, 5 interpellations. Après sa tentative de suicide hier, Willy Bardon sort progressivement du coma. Mais il reste dans un état critique. Il a avalé un pesticide à la cour d'assises d'Amiens juste après sa condamnation. 30 ans de réclusion criminelle pour l'enlèvement, le viol et la séquestration suivie de mort d'Élodie Kulik. Au Mali, un militaire français de l'opération Barkhane grièvement blessé, son véhicule blindé touché par l'explosion d'une mine artisanale. Il va être évacué vers la France. En Syrie, 19 civils, dont 8 enfants tués dans des raids aériens sur la province d'Idlib, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des attaques du régime syrien et de son allié russe sur cette région dominée par des djihadistes. Et puis un point sur le compteur du Téléthon, 33e édition ce week-end et plus de 42 millions d'euros de promesses de dons récoltés.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neil Alatrousse.
Nouvelle journée de manifestation interprofessionnelle mardi. Celle de jeudi avait rassemblé entre 800 000 et 1,5 million de personnes. Les chiffres diffèrent selon qui tient le compteur entre policiers et syndicats. Peut-on parler de colère taille XXL? L'historienne Danielle Tartakovsky réfute ce terme. Écoutez.
Je ne suis pas prudente sur l'emploi du terme de colère. Je constate que les acteurs, dans leur quasi-globalité, ont brusquement utilisé ce mot colère, alors que dans d'autres temps, on aurait dit lutte sociale. Mmh. Donc, je m'interroge
sur le pourquoi... Vous le considérez comme péjoratif, ce terme ?
Ou pas, psychologique ?
Pas du tout. Je considère qu'on change de registre par rapport à ce qui était le vocabulaire classique des luttes sociales en France, que ça dit quelque chose sur les phénomènes de haute turbulence dans lesquels nous sommes rentrés et qui amènent tous les acteurs à user de mots nouveaux parce qu'ils ont du mal à décrire, ou en tout cas conceptualiser, ce qu'il advient.
Arnaud Benedetti, un commentaire, je voyais réagir.
Oui, elle a parfaitement raison. Le problème, c'est que si vous voulez, les luttes sociales, c'était quand on avait quelque chose à gagner. Aujourd'hui, on est dans des grèves qui sont plutôt des grèves défensives. C'est la différence fondamentale avec l'histoire sociale que l'on a pu connaître. Donc, la colère, elle s'exprime parce que finalement, à un moment donné, on refuse des évolutions que l'on considère attentatoires à son statut ou attentatoires à une certaine idée de l'égalité que l'on se fait. Et finalement, quand vous regardez les différents mouvements que nous avons connus, les différents mouvements sociaux que nous avons connu ces dernières années, et c'était également le cas avec les Gilets jaunes au tout début, c'est des mouvements de défense par rapport à des mesures qui apparaissent comme des mesures finalement agressives pour une partie du corps social. Donc c'est ce qui explique vraisemblablement aussi la violence parfois de ces mouvements, la violence sociale et la violence parfois même politique de ces mouvements. Et je pense que là, en effet, on est dans un schéma historique qui est un schéma historique qui évolue considérablement. Aujourd'hui, le problème, on a parlé de fracture, mais le problème, c'est que la société française, elle est à la fois archipélisée, comme l'a rappelé très justement dans son livre Jérôme Fourquet, mais aussi elle est en train de se polariser, comme le rappelle dans un autre livre Jérôme Sainte-Marie. Et finalement, l'idée qu'il existe un bloc élitaire que représente d'une certaine manière Emmanuel Macron et dont l'électorat aujourd'hui est certainement le mieux organisé autour de la personnalité de Macron, et puis un bloc qui est un bloc populaire, qui est beaucoup plus fracturé, mais qui est sociologiquement majoritaire dans le pays, il ne faut jamais oublier que 60% du pays, ce sont des classes populaires, fait que nous sommes dans une situation politique qui est en effet une situation politique nouvelle et parfois extrêmement tendue.
Alexia Germont, comment on répond à la colère? Un conflit social, y a dialogue social, colère, il y a quoi en face?
Oui, alors comment on répond à la colère? Moi je pense qu'on parle beaucoup là de partenaires sociaux, dialogue social, etc. Mais il y a un grand oublié à côté de ça, c'est le bloc de la société civile. Et je crois qu'aujourd'hui, les citoyens doivent se réapproprier le débat public, doivent faire entendre leur voix de façon beaucoup plus constructive et peut-être transpartisane aussi. Parce que, justement, pour toute personne qui entre dans le débat public, on a une vraie responsabilité individuelle et collective de ne pas aller plus dans la fracturation de notre société que ce qu'elle est déjà. Et peut-être une des pistes de réflexion, c'est cela. Et d'ailleurs, vous noterez que Édouard Philippe, alors le paquet cadeau était un peu gros hein, en cette période de Noël, mais Édouard Philippe va s'exprimer depuis le CESE. Et que on sait tous ce que représente le CESE, mais au-delà de là, le Conseil économique, économique, voilà, sociale et environnementale. Mais au-delà de ça, je pense que les citoyens aujourd'hui, qu'ils soient syndiqués ou pas syndiqués, ce sont des approches qui sont différentes, mais il faut absolument que l'on choisisse et que l'on participe à la réflexion pour choisir le modèle de société dans lequel on veut évoluer. Parce que c'est ça aujourd'hui. Et ce que disait Arnaud est très important. Aujourd'hui, on est beaucoup plus en défensive qu'en lutte pour avoir un certain nombre d'acquis sociaux. Eh bien, il faut surtout participer à se projeter pour quelque chose de plus positif.
Moi, je crois que ce que on a, enfin, la République en marche, en tout cas, cette majorité joue à la fois l'immédiat, mais y compris son avenir, je crois, sur ce sujet. Parce que lorsque on applique une méthode de décomposition simple qui vise à identifier ce que sont les autres projets, vous avez le Front National qui vous dit, nous, c'est retraite à 40 ans, retraite à 60 ans, 40 années de cotisation. Le Front de Gauche dit la même chose. Ils n'ont rien à voir entre eux en termes de valeurs. Ce qui les réunit, c'est en tout cas une forme de démagogie. Vous avez la droite qui reste sur un schéma classique, qui est de dire, nous, on n'est pas pour qu'on cotise plus et on n'est pas non plus pour que les pensions baissent. Donc nous, plutôt, on est notre réforme, c'est 65 ans. Mmh. Le Parti Socialiste, je ne sais pas encore, parce que il faut savoir qu'au sein du Parti Socialiste...
Dont vous venez, hein,
oui, j'en suis fier, vous pourrez aller chercher sur Internet, et pas besoin d'ailleurs, vous avez des grandes figures du Parti Socialiste dans des congrès qui ont défendu la retraite par points. J'y viens. Donc, si le débat, c'est on sauvegarde et on a l'universel, alors pourquoi faire ? Quel est le gain ? Quel est le consensus qui permet de dire, il y a un donné pour un rendu, il y a une forme de progrès ? Bon, les mesures qui sont proposées dans le texte, ils disent aucune retraite à moins de 1 000 euros. C'est pas rien. Pour beaucoup, c'est pas grand-chose.
Pour d'autres, c'est continuer.
Les autres mesures qui sont prises, y compris en termes de pénibilité, parce que la droite, il faut savoir, y compris sous Fillon, refusait la prise en compte dans sa réforme de la pénibilité. Là, on peut, semble-t-il, dans le rapport, la mesurer par points. Sauf que je le dis, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'il y a dans le texte. Et donc, il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent et ils disent « Nous, on veut pas que ça change parce qu'on ne sait pas ce que vous proposez. Et donc, nous, ce qu'on vous dit, c'est retirer votre projet, point à la ligne. » Eux, ils ont un message clair et ils sont dans la rue. Et ils ont peut-être raison d'y être tant qu'on ne connaît pas le programme qu'on a en face de façon claire.
Ils ont un message clair et en même temps, ils ne connaissent pas non plus la teneur du texte. C'est ce que donc, c'est quand même pas si clair, dans le fond.
Oui, mais eux, dans leur position, c'est de dire « De toute façon, nous, à la base, si vous leur dites ce que vous voulez, ils disent « Nous, on veut 60 ans. » Donc, la retraite par points, ils seront jamais pour.
Estrémise-Morient, quand vous avez suivi la campagne d'Emmanuel Macron pour France 2, cette campagne de 2017, est-ce que vous percevez les syndicats autour d'Emmanuel Macron comme des partenaires ? On entend certains mots, là, depuis Gaulois réfractaires, négativité ambiante, qui laissent à penser qu'on n'avait peut-être pas anticipé l'âpreté du dialogue social.
Chez les macronistes, il y avait déjà une volonté très franche et nette de s'en affranchir. Au départ, ils voulaient un dialogue direct avec le peuple, d'où aussi cette mise en avant à l'époque de la société civile.
Au sein notamment des équipes d'En Marche.
Bien sûr, mais tout ça, c'est vrai, est réduit à peau de chagrin aujourd'hui parce que...
C'est bien le sujet. Exactement. C'est bien le sujet, c'est qu'il y a une très grosse déception globale parce qu'on a fait croire finalement à un certain nombre de personnes que ça allait vraiment changer, la société civile allait pouvoir s'exprimer et il y a peu de marcheurs initiaux avec qui vous discutiez qui soient capables de vous rassurer sur le sentiment finalement on ne m'a pas pris par surprise.
Bien sûr, vous allez dans les QG locaux, tout le monde vous dit que personne ne vous écoute là-haut, que c'est très centralisé, très jacobin.
C'est très à l'ancienne.
Très à l'ancienne.
Et un malaise, effectivement, qui existe chez En Marche. Hein, et un certain nombre, je crois, d'élus sont partis pour ces raisons-là.
Sachant que dans le à l'ancienne, il y avait l'expérience du mouvement social.
Et En Marche, qui a un autre problème qui vient percuter celui de ce conflit social avec les retraites, un partenaire, François Bayrou du MoDem, mis en examen, ça tombe mal. On y revient dans quelques instants, Astrid, 20h50 sur France Info, le rappel de l'information, Guillaume Fariol.
Une enquête ouverte ce soir par le parquet de Melun. Un policier a découvert ce matin des menaces taguées sur la porte de son domicile à Pontault-Combault. Plus tôt cette semaine, on apprenait que des dizaines de policiers et CRS avaient reçu des menaces de mort par courrier chez eux à Grenoble, Limoges ou encore Périgueux. Un TGV sur 6, un TER sur 5. Les prévisions de la SNCF pour demain. La grève contre la réforme des retraites se poursuit. Pas mieux du côté de la RATP. Toutes les lignes de métro fermées demain à Paris, sauf deux.
2, la 1 et la 14, elles sont automatiques. Dehors à Nantes, aujourd'hui, en marge d'une manifestation à l'appel de la CGT, des gilets jaunes également dans le cortège et des Black Blocs. 3 policiers ont été blessés, 5 personnes interpellées. Il doit être évacué dans les prochaines heures vers la France. Un soldat français grièvement blessé au Mali aujourd'hui par une mine artisanale. Les rafales pourront atteindre 200 km/h. Mayotte, placée en vigilance orange, un cyclone approche de l'île française. Il est attendu dans la nuit de dimanche à lundi. Sa trajectoire exacte reste incertaine. Et puis la mi-temps sur les terrains de Ligue 1 de football, 17e journée. 1-0 pour Rennes face à Angers. Strasbourg mène 2-1 contre Toulouse. 2-0 pour Nice contre Metz. Et toujours 0 partout entre Monaco et Amiens.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neil Alatrousse.
Et comme si le contexte social ne suffisait pas, un allié un poids lourd de la majorité est mis en examen. François Bayrou va devoir s'expliquer sur des soupçons d'emploi fictifs. Il reste patron du Modem, nous dit le député Patrick Mignola.
Toute la vie de François, de là où il vient, de là où il est arrivé, c'est une personne, un style... où tout a été fondé sur une probité totale. Et donc c'est forcément une épreuve difficile, et c'est à lui que je pense, avant toute chose. Donc il sait se défendre, il saura se défendre dans le cadre de cette procédure, mais avant toute chose, moi je pense que le Modem a besoin de lui. Moi je crois pouvoir dire au nom de tous les députés Modem, tous les parlementaires Modem et un grand nombre de Français, un soutien personnel et un soutien indéfectible à François Bayrou.
Astrid Mesmorian, c'est un coup dur pour Emmanuel Macron, la mise en examen de François Bayrou.
On s'amusait en parlant de désalignement des planètes. C'est pas une bonne nouvelle, c'est sûr. Après, Emmanuel Macron, il a un principe, c'est comme un code d'honneur. Finalement, il ne trahit jamais, il ne lâche jamais ceux qui l'ont soutenu dès le début. Et souvenez-vous, le retrait en 2017 de François Bayrou, c'est énorme au profit d'Emmanuel Macron. Donc ça, il ne l'oubliera pas. Il est loyal, il a été loyal avec Alexandre Benalla, il a été loyal avec Richard Ferrand, avec Benjamin Griveaux en d'autres termes.
Vous évoquez Richard Ferrand, c'est un autre poids lourd qui est lui aussi mis en examen dans la majorité.
Exactement, mais lui, il n'est pas du genre là-dessus à hurler avec les loups, il déteste ça. Donc dès qu'il entend une petite musique de Haro sur le baudet, il s'extrait immédiatement de tout ça.
C'est pour ça qu'il refait dire qu'il nourrit un sentiment d'amitié pour François Bayrou, qu'il invite d'ailleurs à participer au déjeuner de la majorité lundi.
Exactement, et également il ira à Pau le 16 et 17 décembre rencontrer le G5 Sahel. Donc, chez François Bayrou.
Chez François Bayrou, effectivement. Alexia Germont,
C'est quand même un moment critique pour le Modem qui est en pleine négociation pour les municipales. On savait déjà qu'il y avait un petit peu de tiraillement dans les équipes. Disons qu'en tout cas, si le chef de parti n'est pas dans un état de négocier avec énormément de pouvoir, c'est quand même compliqué. Et puis c'est aussi compliqué, c'est un moment critique également pour François Bayrou, qui lui-même va se représenter théoriquement à Pau. Et de quelle façon les électeurs finalement percevront ce positionnement d'éthique aujourd'hui, dont il était quand même le chantre au démarrage du quinquennat.
Oui, enfin, s'il est mis en examen. S'il est battu à Pau, ce sera surtout sur la politique locale, plus que sur son comportement national. Mais moi, je crois que si vous voulez.
Sachant qu'on précise que mise en examen, c'est pas culpabilité.
Il y a cet aspect-là, bien évidemment, qui est essentiel. Mais il y a un deuxième aspect, c'est que quand même, si vous voulez, la difficulté, c'est qu'il ne faut jamais oublier comment Emmanuel Macron a été élu. Emmanuel Macron, il a été élu parce qu'il y a eu un naufrage, j'allais dire, éthico-judiciaire médiatique d'un candidat républicain qui était François Fillon. Donc ça, quand même, que l'un des principaux soutiens, que le faiseur de roi d'Emmanuel Macron, ou en tout cas l'un des faiseurs de roi, qui était François Bayrou plutôt, soit aujourd'hui dans cette difficulté, ça rajoute, si vous voulez, de la tension sur le système, indéniablement. Donc c'est pas une bonne nouvelle, manifestement, pour la majorité. Et je voudrais rajouter une chose sur ce que vous disiez, en effet. Je pense que Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, il est très mitterrandien. Il est très mitterrandien, c'est qu'il est fidèle en amitié. Il est fidèle en amitié, mais être fidèle en amitié, ça rapporte en général très peu en politique.
Je pense qu'il est fidèle en amitié. Je rajouterai pas à ce qui a déjà été dit.
Mais ça obère toute chance quand même de revenir au gouvernement, hein, si François, ou pas du tout
on verra,
d'ailleurs.
On verra ensuite. Bon, il y a cette fameuse jurisprudence. J'ai vu que même Bernard Tapie s'était exprimé pour dire à François Bayrou ne fais pas cette connerie, j'ai été le premier à la faire. Il a peut-être pas tort d'ailleurs, hein, puisque c'est quand même problématique, hein, qu'il suffit d'être mis en examen. Vous savez qu'aujourd'hui, par
exemple, vous êtes attaqué pour diffamation ou vous, dites, vous êtes mis en examen automatiquement. Donc, si on applique à la lettre le régime de mise en examen, donc démission, finalement, bon. Deuxième chose, je pense que c'est un partenaire politique dans une phase cruciale qui est celle de la préparation des municipales. C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits où vous avez le MoDem qui part tout seul, le MoDem qui n'est pas intégré ou allié avec En Marche. Vous avez des endroits où il y a des négociations qui ont lieu avec un candidat qui n'est ni En Marche, ni MoDem.
C'est un bras de fer. Bon,
et le MoDem qui a une implantation électorale,
voilà,
contrairement à, à la République En Marche.
Tout à fait. Ouais. Donc, il y a l'amitié, il y a la raison, et je crois que, je trouve que, enfin, moi, je trouve ça plutôt bien, tout simplement. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, il vous a aidé quand c'était pas facile pour vous. Aujourd'hui, il est pas condamné.
D'un point de vue humain,
je pense que le message, il est politique, certes, comme on vient de le dire, mais il est un peu humain, et dans ce monde de brutes, un peu d'humain. C'est...
Mais sur le politique, Astrid Mesmorian, En Marche a besoin, comme le dit Arnaud Benedetti, du MoDem pour les municipales.
Ah oui, bien sûr, En Marche n'a pas d'ancrage, c'est un parti neuf, donc raison de plus, en effet, d'un point de vue un petit peu plus cynique, là, pour continuer à les soutenir et pour qu'ils nous soutiennent en retour,
Et pour l'instant, effectivement, La République En Marche qui fait bloc, en tout cas la majorité qui fait bloc autour du MoDem.
Et Emmanuel Macron l'a redemandé à toute la majorité, faites bloc, soutenez-le publiquement dans les médias.
C'est une consigne de l'Élysée. Voilà. Ne commentez pas les décisions de justice.
Exactement.
Ça, c'est les subtilités du en même temps, Razi Hammadi. Merci à nos informés 20h57 sur France Info. Merci à Arnaud Benedetti, spécialiste de la communication politique et professeur associé à Paris Sorbonne. Votre livre, Le coup de com' permanent, publié aux éditions du Cerf. Alexia Germont à vos côtés, Réveillons notre Europe pour le livre. Et le think tank France Audacieuse que vous présidez, que vous avez fondé. Razi Hammadi, merci d'être venu. Une première pour vous, un fondateur de New Tank Cities. Première sur mon plateau,
avec
celui
toi,
du week-end.
Oui. Avec vous,
ancien porte-parole et député du PS, et ma consoeur Astrid Mesmorian, journaliste politique à France 2. Je rappelle brièvement.
C'est également.
Une première également. C'est le week-end du Téléthon. Un rappel quand même, 36-37, hein, pour faire un don et faire avancer la recherche. Prochain rendez-vous, 21h, pour l'info sur France Info. Bonne soirée avec nous.